point ce temps où nous allons ouvrir la parole. Notre Dieu et Père, merci parce que tu ne nous as pas laissés orphelins, tu as donné ton esprit. Et cet esprit de vérité qui nous conduira dans toute la vérité. Merci Seigneur de nous l'accorder ce matin pour alors que nous ouvrons ta parole et que nous voulons encore être nourris par cette parole. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Je remercie les frères et sœurs qui m'échangent durant la semaine aussi sur le message. Bon, c'est aussi l'idée du groupe de maison, hein, que vous puissiez dans les maisons. Bon, là, en ce moment, il n'y en a pas jusqu'à la rentrée. Mais à la rentrée, je vous fournirai les questionnaires sur ces messages-là, bien que plusieurs n'aient pas pu les suivre, pour que vous puissiez les approfondir. Mais cette semaine, donc, j'ai eu encore quelques échanges pour approfondir la doctrine difficile de l'amour. C'est quelque chose qui m'a interpellé il y a quelques semaines sur un livre d'un pasteur américain qui expliquait que on pense que des doctrines de la Trinité sont difficiles, ce qui est vrai. D'autres doctrines sur la liberté, etc. sont vraies. Et on pense que l'amour, c'est facile. Et en fait, il montre que non, c'est aussi difficile. Alors, tout d'abord, la doctrine, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est pas une vérité en soi, une doctrine. C'est un ensemble de notions sur un sujet qui sont toutes vraies. Vous voyez ? Mais on peut pas les rassembler sous forme d'équations mathématiques ou quoi que ce soit. Simplement, il y a des vérités sur l'amour qui sont vraies. Et on n'arrive pas forcément à les mettre ensemble dans notre petite tête, parce que Dieu est amour. Hein, et on ne peut pas ramener Dieu dans notre petite tête à notre échelle. Donc il faut accepter des choses vraies que parfois on ne comprend pas toujours. Et donc effectivement, comme c'est une doctrine difficile, ça appelle à revenir dessus, parce que l'amour, on en parle tout le temps, l'amour de Dieu qui est à la base. On a vu plusieurs difficultés quand j'ai parlé de l'amour conditionnel. Plusieurs ont réagi à juste titre en disant mais non, l'amour est inconditionnel, l'amour de Dieu. Alors, je dirais oui, l'amour est inconditionnel, c'est vrai, mais l'amour est conditionnel, c'est vrai aussi. Vous voyez, donc les deux choses sont vraies. Ce qu'il faut, c'est comprendre dans quel cadre elles sont vraies et bien cadrer les choses. Ce matin, nous allons voir une autre difficulté qui est la difficulté de l'équilibre. Alors, quels sont ceux qui ont déjà ce livre, Christian Schwartz, qui s'appelle « Vers une nouvelle expérience de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit » Quels sont ceux qui l'ont? Je sais que plusieurs leaders de l'Église, je l'ai donné. Je crois que j'en ai plus, mais je vous le recommande. Il est très simple, très petit. Il coûte peut-être 3 euros ou 4 euros, je ne sais pas, sur Internet, dans les librairies chrétiennes. Christian Schwartz est un théologien allemand de l'Institut de Recherche et Développement de l'Église. Et sa démarche est une démarche scientifique. Quand je dis scientifique, ça veut dire quelque chose de très précis, parce que bon, je suis d'origine, enfin de formation scientifique. La démarche scientifique, c'est une démarche en cercle qui commence par l'observation. On observe. Vous voyez ? Le scientifique qui n'observe pas n'est pas scientifique. Il observe. Il observe la réalité de ce que Dieu a créé. Okay ? Ensuite, il décrit. Il fait une description. Donc, ça nécessite d'être précis dans la description. Plus vous êtes précis par rapport à l'observation, plus vous pouvez déduire des lois. Hein. Ensuite, après, vous faites une hypothèse. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'envisager une réponse à ce que vous observez. Voilà. Mais cette hypothèse ne peut être validée que par une comparaison. Voilà. Donc là, c'est la comparaison. Donc, vous comparez l'hypothèse à ce que vous observez, à la description. Si la comparaison est valide, vous pouvez, à la limite, déduire une loi. C'est comme ça que les scientifiques déduisent des lois. La loi de la gravité, si vous prenez un objet quelconque, n'importe quelle masse, elle tombe. que ce soit en Chine, en Corée, aux États-Unis, n'importe où. Vous voyez, c'est une loi de la nature, et c'est ce qu'on appelle des lois scientifiques. Elles ne sont pas réservées à l'observance des choses matérielles, elles sont vraies aussi pour le psychologique, pour le spirituel. C'est pour ça que Joan et Paula Sanford, qui, elle, Paula est morte, qui pour moi sont ceux qui sont les meilleurs au niveau relations d'aide aux États-Unis, quand ils enseignent, ils prennent des lois dans l'ordre de la nature et ils l'appliquent au psychologique, parce que en Dieu tout est vrai. Et quand Dieu crée quelque chose, c'est vrai pour tout. Action-réaction, hein, c'est une loi physique. Eh ben, dans le domaine psychologique, ça s'applique aussi. Voilà. Donc quand on reste près de la création de Dieu, eh bien, on est scientifique. Et ce livre est scientifique. Pourquoi ? Parce qu'il a fait une observation dans les pays du monde entier, sur des centaines de milliers d'églises, de manière scientifique, pour voir pourquoi les églises ont du mal déjà à s'entendre entre charismatiques, non charismatiques, libéraux, machin, etc. Et il propose une expérience nouvelle de Dieu, du Père, du Fils, du Saint-Esprit, qui permet de vivre l'Église telle que Dieu l'a prévue. Donc c'est un livre très important, et sur lequel, à partir de la doctrine de l'amour, je suis retombé sur une de ses conclusions, qui sont scientifiques, et qui le sont de manière mathématique cette fois-ci. Donc, vous voyez, donc c'est une preuve. Alors je voudrais aussi tuer ce matin une idée reçue, hein, on a beaucoup d'idées reçues, hein, que les mathématiques, hein, dont, que j'évoque ici, ne sont pas de l'ordre. Voilà, un peu comme s'il y a deux mondes, hein, il y a les gens qui sont scientifiques ou mathématiques et les gens qui sont littéraires. Je voudrais tuer cette idée reçue dans la mesure où la logique, hein, là je parle de logique mathématique, mais la logique ne vient pas des mathématiques. La logique vient du discours, de l'aspect littéraire, de l'aspect de la recherche de vérité. En fait, si vous regardez, moi je l'ai fait comme vous, vous avez les mêmes informations maintenant avec Internet, bon, il faut faire attention à ce qu'on lit, hein, ou ce qu'on regarde, mais bon, y a quand même des choses vraies, heureusement. La logique est apparue à partir des gens qui disaient n'importe quoi. Vous connaissez des gens qui disent n'importe quoi ? Du discours du n'importe quoi. Ça s'appelle les sophistes. Les sophistes, autant des philosophes anciens, en fait, ils voulaient convaincre des gens par des sophismes, c'est-à-dire des raisonnements qui sont fallacieux, des raisonnements qui paraissent justes et qui sont faux, et qui vous entraînent dans une conséquence qui essaie de vous faire croire des choses que vous allez croire parce que le discours est formidable. Le discours, les sophistes, ce sont des discoureurs. Hein. Mais hein, ils vous embobinent bien. Mais très bien, au point où vous avez du mal, vous dites, mais qu'est-ce qu'il a dit ? Mais c'est pas juste ça. Ouais, mais vous en apercevez après. Donc c'est au moment du discours. Hein. Il y en a qui aiment les discours. Hein, c'est les gens de la communication, les gens de la presse et tout ça, ils font du discours, ils sont dans le discours. Bon, ben c'est là que c'est apparu, parce que les gens disent c'est quand même pas possible, on ne va quand même pas se laisser emmener par des discoureurs. D'ailleurs, Paul n'était pas content des discoureurs. Hein. Il n'arrête pas d'être confronté à des discoureurs à Corinthe, à Athènes, partout, etc. Les discoureurs, ils sont partout. Hein. Les sophismes, ils sont partout. C'est-à-dire des raisonnements faux. Eh bien, la logique, ils ont inventé le discours logique de la raison, qui est basé, la logique est basée sur la vérité, c'est-à-dire démontrer la vérité. Il y en a ici qui aiment la vérité, ben faites de la logique. Parce que la logique prouve que c'est vrai. Le sophisme, c'est, voilà, je parle d'un truc, mais voilà, je vous envoie un écran de fumée, et puis hop, je fais une conclusion qui paraît juste, mais qui est fausse. Vous connaissez le fameux raisonnement. Le russe, c'est mon frère. Pourquoi ? Parce que le russe, c'est du slave. Et si slave, c'est qui se nettoie, et si se nettoie, c'est donc ton frère. Voilà. Vous voyez, c'est un discours qui paraît très, très... Hein, voilà, qui paraît très très spirituel. Et en fait, vous passez d'un raisonnement à un autre, et puis hop, vous trouvez sur une conclusion. Voilà, bon, ça vous fait plaisir, mais c'est pas du tout scientifique. Ok. Voilà. Donc c'est pour contrecarrer les sophistes que les logiciens ont développé ce qui est basé sur le logos. D'ailleurs, la logique, c'est partir du logos. Et c'est qui le logos véritable? C'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ avait toujours à la bouche la vérité. Quand il était confronté à des chefs religieux, il disait la vérité. Amen. Ben, si vous aimez la vérité, vous aimez la logique et vous aimez le raisonnement. Alors le raisonnement logique, bien sûr, moi je sais que quand je me suis converti parmi les étudiants, en 68, hein, donc c'était la période chaude. Et dans cette période-là, mon désir, c'était de convaincre les étudiants que Jésus est la vérité, hein, parce qu'ils cherchaient tous la vérité à ce moment-là. Maintenant, c'est plus trop ça, on cherche le plaisir, l'hédonisme. À l'époque, on cherchait la vérité. Eh ben, on faisait venir des pasteurs, on faisait venir des docteurs pour faire des conférences. Et les conférences étaient pleines, hein. Moi, dans mon école où j'étais aux arts et métiers, j'étais avec les groupes publics universitaires, et puis j'avais tellement soif de partager l'évangile que le responsable de Paris qui était venu sur Chalon en Champagne a dit, bon, bah, ok, tu fais juste une affiche. Alors moi, j'étais tout novice, je fais une affiche, et j'ai invité. Toute l'école est venue, 300 personnes, directeur, sous-directeur, tout le monde était là. Grand complet. Puis hop, ils ont entendu l'évangile, quoi. Hein. Ils ont dit, mais comment t'as fait? J'ai dit, mais j'ai rien fait, j'ai juste invité, voilà. Mais à l'époque, on faisait venir justement des gens qui essayaient de parler de ce que l'homme a toujours eu comme souci depuis le début de l'évangile. Concilier la foi et la raison. Alors là, c'était un thème fondamental. Foi et raison. Les théologiens, depuis Thomas d'Aquin, entre autres, hein, ils ont voulu ramener la raison, parce qu'ils ont dit, c'est pas possible, la foi, c'est déraisonnable, la foi du charbonnier. Il faut quand même qu'il y ait une raison. Eh bien, la parole de Dieu, elle est raisonnable, imaginez-vous. Vous voyez ? Il n'y a pas d'antinomie. Pourquoi ? Parce que Dieu est raisonnable. Vous croyez que Dieu est idiot ? Que Dieu est n'importe quoi ? Non, Dieu est raisonnable. La divina ratio, ça veut dire c'est la raison divine. Et Dieu, quand il a créé l'univers, imaginez tout l'univers qui fonctionne comme quelque chose d'extraordinaire. C'est ça la raison. C'est que les choses ne s'entrechoquent pas, elles sont bien à leur place et que ça fonctionne, etc. Ça, c'est la raison. Et la raison divine, eh bien, elle n'est pas antinomique avec la foi. Sauf que, c'est d'abord par la foi que nous sommes sauvés. Ok ? Mais la raison, elle peut démontrer la foi. Voyez-vous ? C'est ça qui est formidable. C.S. Lewis, celui qui a fait les Narnia et qui a été traduit en film, hein, il y a que quelques films, hein, qui a écrit beaucoup d'autres bouquins sur Narnia, eh bien, il est venu à la foi par la logique, par justement cette démarche qui était une démarche de logique pour chercher Dieu. Voilà. Donc, c'est pas du tout antinomique, et les mathématiques reviennent que derrière, c'est après le discours. Okay, voilà. Donc une fois que j'ai dit ça, voilà, je reprends le fil de mon enseignement. Donc la doctrine difficile de l'amour. Alors dans cette doctrine, bien sûr, on peut aborder d'autres choses qui sont vraies de l'amour. Mais en fait, j'ai proposé, en fait, ce pasteur propose 5 manières de voir l'amour, 5 façons d'aborder l'amour, 5 notions de l'amour de Dieu. La première notion de l'amour se trouve en Dieu, on le verra tout à l'heure. Donc il y a 1, on va suivre dans ce sens-là, 3, 4, 5. Okay ? Donc voilà, c'est un peu la manière dont je vais vous présenter les 5 approche de l'amour selon la Bible. La première, c'est la Trinité. Dans la Trinité, qui est un mot que l'on ne trouve pas dans la Bible, hein, c'est les théologiens qui ont expliqué que Dieu est un en trois personnes, parce que dans toute la Bible, on voit ce concept, cette approche apparaître. Et c'est très particulier au christianisme, parce que dans les autres religions, il y a ou trois dieux, ou un seul dieu, le monisme, qu'on appelle ça, ou quatre dieux, ou cinq dieux. Là, c'est un dieu en trois personnes. Voilà. Essayez de comprendre, il n'y a rien à comprendre, c'est comme ça, c'est Dieu. Okay, il se présente comme ça. Donc, à l'intérieur de la Trinité, il y a l'amour. Le Père qui aime le Fils qui aime le Père, et le Saint-Esprit qui joint l'ensemble des trois personnes. Ensuite, on a l'amour des créatures que nous sommes. En tant que création, Dieu nous aime. Parce qu'il nous a fait, il nous a créé, homme, femme, en disant que c'est... Non. Qu'est-ce qu'il a dit très bon? Voilà. Emmanuel, tu as gagné ce matin. Très bon. Et donc, quand tu te regardes dans ta glace, tu peux dire, je suis très bon. Parce que Dieu t'a fait très bon. Hein. Et ça, c'est très important. Hein. On rigole, mais c'est très important. Parce que beaucoup dans les religions, y compris évangéliques, on tombe dans ce qu'on appelle le mépris du corps. Vous voyez ? Et on rentre dans la gnose, dans le mysticisme. Tous ceux qui rentrent dans l'hyperspiritualisme, eh bien, ils sont à côté de la plaque parce qu'ils n'ont pas compris ce principe que notre corps, il est bon. C'est simplement affecté par le péché. La preuve, c'est qu'il est très bon. C'est que Dieu a donné à Jésus un nouveau corps, hein, de résurrection, mais un corps. Okay, nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas des esprits, nous sommes des humains. C'est une créature, il faut l'accepter telle qu'elle et faire avec. Okay. Et alors nous serons heureux. Donc ça c'est la première chose, l'amour qui se manifeste par la bonté de Dieu. Et on le chante, et on a raison de chanter, Dieu est bon. Mais nous aussi, on est très bon. Dieu nous a fait très bon. Okay. La deuxième manière d'aborder l'amour dans la Bible, c'est d'être des créatures rachetées. Ce qu'on appelle aussi la rédemption. Rédemption, ça vient de rachat. C'est-à-dire que Dieu a vu que nous ne pouvons pas nous en sortir tout seuls à cause du péché. Il faut que nous soyons rachetés par le sang de Jésus. On l'a chanté ce matin, le sang de Jésus nous a rachetés. Okay. Donc l'amour de Dieu se manifeste pour ses créatures en les rachetant. Voyez, pas simplement en les laissant tomber, il aurait pu nous laisser tomber, comme les anges. Les anges n'ont pas de rachat possible. Nous nous sommes rachetés, c'est extraordinaire. Et les anges plongent le regard dans ce mystère. Et ils sont émerveillés de voir comment Dieu aime l'homme dans sa plénitude. La quatrième notion de l'amour, c'est d'être des créatures élues. Dis à ton voisin, ta voisine, tu es élu. Tu es élu. Non, non, pas la majorité. Ah, d'accord. Voyez-vous, l'élection. Alors ça, c'est un très, très grand thème théologique, puisque Calvin, qui est à côté de Luther, un des réformateurs les plus connus, qui est français, Calvin a écrit là-dessus, au point où leurs disciples, les disciples de Calvin, ont sorti la doctrine de la prédestination. Mais ce n'est pas tout à fait comme ça que Calvin l'a écrit, parce que c'est difficile, la prédestination est difficile. Est-ce que, Maggie, toi, Dieu t'a choisi et ta voisine ne l'a pas choisi? Si on va trop loin là-dedans, ça veut dire que, dis donc, Maggie, elle a une place, elle va avoir une place devant le trône de Dieu, tout ça, et l'autre, non. Et après, on a des damnés. Bon. Mais toute doctrine qui est utilisée par les hommes a ses déviances. N'empêche que l'élection existe, nous sommes élus de Dieu. Amen. La seule chose qui doit nous pousser dans cette élection, c'est l'adoration. C'est-à-dire, Seigneur, merci. Rendre grâce de cette élection, que nous avons été choisis, adoptés en tant que fils et filles. Donc, vous voyez, c'est encore un domaine qu'il faut explorer dans l'amour. Et dernier domaine, donc, c'est pour devenir disciple, enfin, dans la phase de discipulat, c'est des créatures amies de Dieu. Jésus a dit, je ne vous considère plus comme qui? Mais mes amis. Extraordinaire. Dis à ton voisin, ta voisine, tu es un ami de Dieu, un ami de Jésus. Vous voyez, maintenant on a Facebook, on a tout ça, on célèbre l'amitié, mais fais un Facebook avec Jésus. Ben oui, hein, Elsa, c'est ce que tu fais. Fais un Facebook avec Jésus. Vous êtes amis de Dieu. Amen. Hello. Voilà, donc vous voyez, la manière que cet amour se manifeste a un certain nombre de conséquences. Alors on va voir juste une des conséquences, c'est sur la foi. La foi, c'est une... Alors, dans la Bible de Chouraki, c'est un juif qui a écrit la Bible de Chouraki. Chouraki, c'est un juif chrétien. Et il n'utilise pas le mot foi. Si vous utilisez la Bible... Il y en a qui ont la Bible Chouraki? Non? Bon. Si vous prenez la Bible Chouraki, c'est une traduction, hein, comme la Tob, comme la... Voilà, etc. Chouraki, il a traduit la Bible. Mais il utilise des mots hébreux. C'est-à-dire, lui, il est hébreu. La Bible est écrite de l'Ancien Testament en hébreu, et il traduit de l'hébreu au français. Allô ? Me suivez ? Et qu'est-ce qu'il utilise pour le mot foi ? Il n'y a jamais foi dedans, de la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a pas le mot foi. Il y en a qui savent ce qu'il utilise comme terme ? Adhérence. Un peu comme les semelles de ma chaussure qui adhèrent. Hein ? Adhérence, c'est étonnant. Ça fait réfléchir parce que. Ça veut dire pourquoi lui qui lit l'hébreu, il lit foi mais en hébreu, puisque la Bible est écrite en hébreu dans cet testament, il traduit adhérence. Ça veut dire que un hébreu ne comprend pas foi comme nous, il comprend adhérence. C'est-à-dire adhérer à Dieu. Adhérer, ça veut dire coller. Coller. Alors, hein, adhérence, quand il y a une bonne adhérence, vous voyez, quand vous avez un embrayage, je suis désolé, je suis mécanicien, un embrayage qui patine, vous n'avez plus d'adhérence. Et votre moteur, vous pouvez voir 300 000 chevaux, la voiture ne bouge pas, okay, parce qu'elle marche sur les rivets. Il n'y a plus de disque, voilà, qui adhère. Okay. Donc vous voyez, vous pouvez tourner à 3000 à l'heure en tant que chrétien et plus adhérer à Dieu. C'est grave. Oui, non, mais il y a des chrétiens comme ça. Hein. Ils turbinent. Paf, il n'y a plus d'adhérence, il n'y a plus de foi. Okay. Allez, bon, je passe là-dessus pour dire la foi, c'est quelque chose, vous pouvez avoir un disque usé, et un disque neuf, ou un disque complètement mort. Okay. La foi, c'est pareil. Alors regardons la foi, pour passer d'un disque usé à un disque qui adhère. Okay. Alors la première notion de foi, c'est une foi évidente. Alors ça, tout le monde peut l'avoir. Cette foi évidente de Dieu. Pourquoi je dis ça ? Rémi, Xavier, Elsa, Florence, vous savez. Sur quel verset je m'appuie pour dire que tout le monde, même les athées qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, c'est faux, ne les écoutez pas. C'est complètement faux. Ils croient en Dieu. Ils ne veulent pas croire en Dieu. Cette chose. Ça s'appelle ça des agnostiques. Décidés, je ne crois pas en Dieu. Non, ils croient en Dieu, tous. Ils sont obligés. Pourquoi ? C'est un verset qui dit ça. C'est pas moi, hein, ça, c'est de la logique, là. On est dans le raisonnement par rapport à la parole. En tant que disciple, vous le sachiez pour évangéliser. Si vous voulez bien évangéliser, alors moi j'utilisais tout le temps en mai 68, hein, c'était le passage favori. C'est Romain. Vous savez qu'il est Romain, si vous prenez l'épître aux Romains, Luther s'est converti avec l'épître aux Romains. L'épître aux Romains, il a dit qu'il y a tout dedans. C'est la théologie. Si vous connaissez l'épître aux Romains, je vous encourage à l'apprendre par cœur, parce que tous les chapitres vous aident à cette progression. L'épître aux Romains, chapitre 1er, qu'est-ce qu'il dit ? Chapitre 1er, verset 18, il dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Ce qu'on peut, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements, et leur cœur sans intelligence était plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Quelqu'un qui refuse de croire en Dieu, il est fou. Il est complètement fou. Parce que c'est un peu comme s'il donnait un coup de poignard à lui-même. Quoi. Il se tue. Puisque c'est évident pour tout le monde que Dieu existe et qu'on doit le glorifier. Amen. Mais vous voyez, c'est une foi évidente qui ne suffit pas. Et suffit pas. Pourquoi ? Parce que l'homme est devenu tellement fou qu'il se dégrade lui-même, il se tue lui-même. Donc ça, c'est une foi évidente. Hein. Il ne faut pas chercher midi à 14h, elle existe, tout le monde peut l'avoir. Et si on ne l'a pas, eh bien, on se torpille. Voilà, on se torpille, on se met dynamite sous les fesses et voilà, c'est tout. C'est tout. Non, mais c'est ce que dit. Lisez bien la Romains. Et encore, j'ai pas tout lu. Hein. Continuez à lire. Vous allez voir comment Paul est clair là-dessus. Ok ? Rémi, t'es d'accord ? T'as intérêt. Ok. Deuxième fois. Là, on augmente en adhérence. Hein. Ok ? Vous êtes prêts là ? Parce qu'il y a un moteur de 3000 chevaux derrière. Il faut suivre. Hein. Donc, là, l'embrayage, il patine un peu moins. Deuxième niveau, c'est la foi révélationnelle. Qu'est-ce qu'il y a dans le mot révélationnel ? C'est révélation. Là, je suis d'accord que tout le monde ne peut pas adhérer à ça. Parce que si déjà le premier niveau, les gens y refusent, la foi révélationnelle, elle leur est pas accessible. Mais c'est eux qui ont voulu qu'elle ne leur soit pas accessible. La révélation, c'est quoi ? La révélation de quoi ? Non, pas du tout. Enfin, pas du tout, si, la bonté de Dieu, t'as raison. Mais je t'ai peut-être pas laissé terminer. La bonté de Dieu. La bonté. La foi révélationnelle, c'est quoi ? C'est simplement le plan B de Dieu. Dis à ton voisin le plan B. Parce qu'il y a le plan A et il y a le plan B. Vous saviez ça ? Ah, alors. Le plan A, c'est quoi ? Pardon ? C'est Genèse 1 et 2. Écrivez, Genèse 1 et 2. C'est plan A. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce plan A ? Il a capoté ou il n'a pas capoté ? Ah bah voilà. Ah bah donc il y a un plan B. Qui rachète le plan A. C'est ce que j'ai dit au départ. Les anges n'ont pas ce plan B. Ils n'ont que le plan A. Ok ? Et voilà. Donc le plan B, il faut avoir la révélation du plan B. Et il est là, la révélation. Hein ? C'est Jésus-Christ. Ok ? Dans l'histoire, Jésus est venu il y a 2000 ans. Si tu ne le sais pas, dis-le à ton voisin. Il est venu, Jésus, en chair et en os. Il s'est incarné. Dieu s'est incarné. La seule religion au monde où Dieu s'est incarné. Il est devenu homme pour accomplir le plan B. Et pour ça, c'est la foi révélationnelle. C'est la compréhension du salut en Jésus-Christ. Voyez-vous ? Hein, tu avais raison, Bruno, en disant Dieu est bon, mais c'est mieux de dire la compréhension du salut en Jésus-Christ. Parce que le salut en Jésus-Christ, il y en a beaucoup qui n'en veulent pas. Et en plus, qui vous diront, oui, mais ça c'est intolérant. Moi, je peux être sauvé avec Bouddha. Moi, je peux être sauvé avec ceci. Et tu n'as pas le droit de me dire que... Il y en a qui vont dire ça. Donc vous voyez, déjà ici, ça commence les problèmes. Hein. Les problèmes, ils commencent là. Parce que vous avez une foi qui est basé sur la révélation de la venue de Jésus-Christ, et vous allez être taxé d'irrationnel. Donc vous voyez, là vous commencez, avec votre embrayage qui commence à patiner moins, à avoir des problèmes avec vos voisins. Et ben oui, ben Jésus l'a dit. Il a dit, si vous adhérez à moi, vous aurez des problèmes. Alors effectivement, il y a des chrétiens qui ne veulent pas trop de problèmes, donc hop, ils rappuient sur l'embrayage, tchou, et hop, ça repatine. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils font du surplace. Il n'y a pas d'histoire. Si vous voulez aller loin avec le Seigneur, il ne faut pas faire patiner votre embrayage. Parce qu'il est neuf au départ, mais petit à petit, il va s'user. Hein. Parce que si vous faites patiner l'embrayage, c'est les gens qui roulent beaucoup à Paris ou dans les villes, l'embrayage, il faut le changer vite. Hein. Okay ? Si vous roulez en campagne, si vous laissez toujours allumer, vous pouvez à l'infini utiliser votre embrayage. Il ne s'usera jamais. Ok ? Mais soyez des gens qui ne font pas patiner leur embrayage. La troisième foi, c'est une foi expérimentale. on expérimente l'amour de Dieu. C'est pour ça que Christian Schwartz base son livre sur la nouvelle expérience de Dieu. Dieu, il faut l'expérimenter. Amen. Il faut avoir une relation avec lui. Il faut avoir un Facebook avec Jésus. Ok ? Ok ? Je parle le langage moderne. Ayez un Facebook avec Jésus, face à face. Ok ? Et là, il faut une expérience de Jésus. Il ne faut pas juste la révélation. Savoir que Jésus est mort. Savoir que Jésus est venu il y a 2000 ans. Savoir que Jésus a fait des choses pour moi. Il faut que je l'accepte. Hello ? Et voilà. Donc, vous voyez, c'est déjà un peu plus engageant. Sauf que ce n'est pas encore assez. Et l'embrayage, il patine encore de temps en temps. Parce que vous acceptez Jésus, mais qu'est-ce qui se passe, Elena ? Tu devines un peu, là, où je vais aller, non ? Vous savez, dans l'école, moi j'étais aussi à l'école, on n'a plus besoin de réviser à la maison quand on suit le cours. Et quand on suit le prof, en plus. Alors, si on suit le prof, alors là, moi j'avais des copains, bon, c'était un peu des génies, ils allaient chez eux, ils jouaient, tout ça, puis ils étaient les premiers. Je dis, mais comment ils font là ? Moi, il faut que je rame, je bosse, tout ça. Là, ils suivaient le cours, tac, ils sortaient, ils avaient tout. Hein, tout. Alors, si vous êtes comme ça, c'est super, hein, en tant que chrétien. Alors, Rémi, qu'est-ce que je veux dire derrière ? Pardon ? Et d'où est-ce qu'elle vient, cette résistance ? Tu brûles ? Non, la chair. Vous voyez, tout le monde pense à Satan. Enfin, tout le monde, je ne sais pas. Non. Dommage. Ah, je pensais te réchapper. Non, c'est la chair. Dis à ton voisin, c'est la chair. Le premier ennemi, ce n'est pas Satan, c'est la chair. Satan, il joue sur la chair. Mais c'est la chair. C'est la chair. Ah, Elsa, qu'est-ce qu'il dit la première leçon du torrent qui purifie ? Marchez par ? Parce que l'esprit a des désirs contraires à la chair. Voilà. Apprenez ça par cœur. La chair. Ici, il y a une résistance, là, parce que c'est une foi expérimentale, relationnelle, d'enfant. C'est du magico-religieux, comme dirait Poujol. C'est quoi le magico-religieux ? Ah, Dieu est bon, formidable. Je le connais comme mon Dieu. Je lui demande un vélo, il me donne un vélo. Fantastique, extraordinaire. Oh, je lui demande une voiture, il me donne une voiture. C'est formidable, c'est magique. Je lui demande une Ferrari, il me donne une Ferrari. C'est magique, formidable. Il répond à tous mes désirs. Vous êtes comme ça, on est chrétien ? Ah bah oui, c'est une foi d'enfant. Mais réfléchissez un peu. Quand vous êtes converti, c'est un peu comme ça ? Non ? Parce que Dieu est bon. Il sait qu'il a besoin, on a besoin en tant qu'enfant d'avoir des parents qui nous donnent tout. À 2-3 ans, vous dites à papa, ah, je veux une sucette. Ok, il va la chercher, la sucette. Vous n'avez même pas besoin de la chercher. Eh ? Formidable. Donc on a besoin de ça au début. On a besoin de ça au début. C'est logique. Dieu, c'est un père, il nous connaît. Mais ne restons pas à juste demander des sucettes et à rester assis en espérant que Dieu les amène. C'est tout. Donc, ne laissons pas patiner notre embrayage, mais adhérons à Dieu, que notre foi devienne mature. Et c'est le dernier stade. Alors, il y a cinq étapes de la foi, pour ceux qui veulent se renseigner sur ces cinq étapes. Alors, c'est le modèle. Alors, il y a un modèle qui a été fait là-dessus, et c'est Poujol qui l'a repris sur son site de relations d'aide. Il l'a poujolisé. Oui, parce que les modèles américains sont toujours un peu... Il faut les remettre à la française. Donc, le modèle américain, je vais vous donner le nom, si je le retrouve. Oh là là, dans mes papiers, pourtant, il doit être là. Voilà. C'est James Fowler, F-O-W-L-E-R. Comment ça se prononce, Sonit ? Fowler ? Fowler. Il faut avoir une patte à la bouche. Ok, James Fowler. Et il décrit, on pourrait décrire 12, 25, bon, il a décrit 6 étapes. Okay. Et Jacques Poujol les a repris. Donc, si vous voulez devenir ami de Dieu, ben, il faut rentrer dans une foi mature. Et là, les 6 stades, c'est tout d'abord de 2 à 6 ans. Hein, c'est rapproché de la croissance d'un enfant. enfin d'une personne humaine. De 2 à 6 ans, c'est la foi intuitive, projective. On accepte tout. Tout ce que les parents disent, c'est super. Et puis si quelqu'un dit c'est pas super, ben non, papa, hein, il va venir, ma maman, et c'est tout, hein, c'est tout, tout, tout. Voilà. Donc à cet âge-là, c'est du tout. Avec Dieu, c'est pareil, c'est dans du magico-religieux. Le deuxième, c'est le mythe littéral de 7 à 12 ans, c'est on s'approprie des choses, on commence à s'approprier. Joey commence à bien s'approprier des choses, hein, de concepts, de choses comme ça, qu'elle se réapproprie, même très bien. De 12 à 20 ans, on s'investit dans la foi. Ah, on commence à s'investir, c'est bien ça. On commence à vouloir rentrer dans les domaines de la foi, dans le domaine professionnel, dans tous les domaines, etc. Ah, on veut vraiment être chrétien, ok, c'est bien. Mais qu'est-ce qui se passe au stade 4? 20 à 40 ans, la crise. Waouh! On n'aime pas les crises. La crise à 45. Ça peut venir avant. Hein. La crise. Pourquoi la crise? Parce que, bah, du coup, on était dans le magico-religieux, on a l'impression que Dieu ne répond plus, que c'est plus Dieu, que on commence à douter, on commence à douter de la foi, on commence à douter un tas de choses, etc. On commence à critiquer. Mais je peux vous dire que si vous passez cette stade-là, c'est là que vous allez grandir. Parce que des crises sont nécessaires pour s'approprier les choses. Okay. Et ensuite, après, de 30 à 50, stade numéro 5, c'est la reconstruction. On reconstruit les choses, on s'approprie, on reconstruit les choses pour se les approprier et devenir mûr. Et le stade 6, c'est très rare, ceux qui arrivent à ce stade 6, hein, rassurez-vous, je n'y suis pas. C'est les gens qui peuvent devenir martyrs pour leur foi. Martin Luther King, c'est-à-dire que leur cause est tellement élevée qu'ils sont prêts à mourir pour leur foi. Amen. Dieu ne demande pas ça. Si ça arrive, que vous ayez la capacité d'avoir cette foi, tant mieux. Mais, déjà, allons jusqu'à dépasser la crise. Et acceptons les crises, parce qu'elles sont salvatrices et nous permettent d'aller plus loin. Amen. Alors, continuons. Ce n'était pas l'objet de ma prédication, mais je peux l'aborder un jour sur les stades de la foi. Mais ils sont là. Ils sont là. Ils sont là, entre les deux, le 4 et le 5. C'est toutes des étapes. C'est la marche du chrétien. Okay. C'est Bunyan qui a marché et parlé du pèlerin, du voyage du pèlerin, etc. La foi mature, relationnelle d'adulte, générative, comme le dira Pujol, la foi générative de génération, et peuvent transmettre aux générations suivantes leur foi. Amen. Alors, on va prendre deux versets, Matthieu 16, 24 et 25. Le premier verset, Matthieu 24, c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples après avoir créé l'Église. Avant de partir de la terre, il a voulu instruire ses disciples. Voilà ce qu'il leur dit. Il est dit, si quelqu'un veut venir après moi, donc après Christ, alors qu'il renonce à lui. Lisons-le ensemble. Si quelqu'un veut venir après moi, alors qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ce que je vous ai dit dans les messages précédents, c'est que j'ai découvert aussi comme vous que quand on contrepose cette affirmation, on comprend un peu mieux. Et c'est vrai. La contreposée est vraie au même titre que la posée de l'affirmation. Donc la contreposée, c'est, on le lit ensemble, si quelqu'un ne renonce pas à lui-même et ne porte pas sa croix, alors, on le redit, alors il ne, encore une fois, ok, c'est clair? C'est pas qu'il ne peut pas. C'est la volonté qui est engagée. Et c'est normal, parce que Dieu nous a fait libres. Il a dit, tu es libre. Il n'impose à personne de croire. Il n'impose à personne d'être disciple. Il n'impose à personne la foi adulte. Et il laisse tous les gens là où ils sont. Mais si tu veux, tu peux. Parce que la grâce est là. Amen. Voilà, donc le premier verset, c'est la base pour devenir disciple. Pour suivre ces stades de foi, si vous voulez. Hein, pouvez avoir une foi expérimentale. La grâce de Dieu vous a tellement rempli que vous connaissez le Seigneur par expérience, mais vous n'êtes pas rentré dans les stades de foi. Donc il faut appliquer ce verset qui est une affirmation de Jésus. Ensuite, la deuxième verset, qui est le verset 25, il est découpé en deux. 25 petit a et 25 petit b. C'est-à-dire dans le verset, il y a deux affirmations qui sont au même niveau, puisque c'est Jésus qui les a prononcées. Alors on va les lire. Celui qui voudra trouver sa vie la perdra. On le lit tous ensemble ? Celui qui voudra trouver. Dans votre Bible, c'est marqué sauver. Hein ? Mais Christian Schwartz utilise le mot trouver, et j'ai regardé en grec. Trouver, sauver, c'est le mot qui est utilisé en grec. Alors on a Colette qui connaît bien le grec. S'il y a quelque chose, tu me dis si je me trompe. Hein. T'as oublié. Enfin, n'hésite pas. Je me laisse reprendre si je me trompe. Mais j'ai bien regardé en grec. Trouver, sauver, tout ça, c'est bon. Alors, vous allez voir que trouver, en l'occurrence, est mieux adapté que sauver pour bien comprendre ce verset. Alors, on va le relire. Mais celui qui voudra trouver sa vie la perdra. On le contrepose pour mieux comprendre. Ça aide à mieux comprendre. Si quelqu'un ne perd pas sa vie, alors il ne la trouvera pas. Lisez-le tous ensemble. Si quelqu'un ne perd pas sa vie, alors il ne la trouvera pas. Vous voyez donc, le fait de renoncer ici là-haut, voyez, ça a du sens. Parce que Jésus dit, si quelqu'un ne perd pas sa vie, alors il ne la trouvera pas. Vous voyez donc, là il faut la perdre. Ah, vous allez dire, Jésus, je ne comprends pas, tu viens pour me donner la vie et il faut que je la perde. Bon. Donc il y a quelque chose. Alors, le verset 25b, la deuxième partie, qu'est-ce qu'a dit Jésus ? Il dit, celui qui perdra la vie à cause de moi la trouvera. Lisons-le ensemble. Celui qui perdra la vie à cause de moi la trouvera. Si quelqu'un, alors contreposé, parce qu'on comprend mieux, hein, si quelqu'un ne trouve pas la vie, alors il n'aura pas voulu la perdre à cause de moi. On le dit tous ensemble ? Si quelqu'un ne trouve pas la vie, alors, il n'aura pas voulu la perdre à cause de moi, bien sûr. La perdre, on peut pas la perdre pour une cause noble, hein, à cause de moi. C'est fort, ça. Alors, c'est là que je vais passer aux mathématiques. Je vais passer. Voilà. On va revenir tout à l'heure, tout ça. On va revenir des mathématiques. Alors, je m'adresse aux mathématiciens, les autres ferment leurs oreilles, s'ils n'aiment pas les mathématiques, mais c'est de la logique, en fait. Et qu'est-ce que disent les mathématiques qui, elles, ne se trompent jamais? Moi, j'avais un camarade qui, là, avant la retraite, il a fait toutes mes études avec moi. J'ai dit, mais comment tu te sens? Je parlais de Dieu souvent. Il a dit, j'ai qu'un seul regret, parce qu'on était dans les fusées. Bon, on faisait des choses passionnantes, hein, les satellites, les fusées, tout ça. Il dit, non, je regrette, j'aurais voulu devenir professeur de mathématiques. Je dis, ah bon? Bah oui, toute ma vie. Il dit, parce que la physique, c'est imparfait. Les mathématiques, c'est parfait. Ça ne se trompe jamais. Forcément, c'est fait pour ça. C'est pour que les mathématiques, c'est idéal. Mais là, ce n'est pas de l'idéal. C'est une démonstration logique d'une vérité. Okay ? Alors, allons-y. La foi mature, adulte, est confrontée aux exigences des lois du royaume de Dieu. Okay ? C'est-à-dire que la foi mature doit faire face aux lois du royaume. Ça, on est dans le royaume ? RNC, on est dans la même famille d'églises qui croient au royaume, ici et maintenant, hein, pas simplement plus tard. Alors, Matthieu 16, à propos de soi, donc je reviens au verset précédent, sous forme mathématique. Okay, et là, je suis sous contrôle, hein, de Charles, qui d'ailleurs, justement, m'a envoyé ses emails, donc je sais que je ne me trompe pas, il me les a validés. Okay, parce qu'il a enseigné ça toute sa vie, hein. Voilà, donc je parle sous contrôle. À propos de soi, P, alors j'ai pas trouvé le signe mathématique implication, il se trouve pas dans les trucs, j'ai cherché partout. Bon, il manque les deux traits, voilà. Implication normalement en mathématiques, c'est ça, hein. Mais je les ai pas trouvés sur internet, donc je sais pas. Voilà, c'est ça. Voilà, j'ai trouvé juste la flèche. Implique. Donc P, alors c'est une proposition. P implique Q. OK ? Et la contreposée, c'est moins Q implique moins P. C'est ce qu'on a fait à l'instant quand on a lu les versets à l'envers, contreposés, qui est le même verset. C'est aussi vrai, sauf que ça parle un peu mieux de manière négative. C'est tout. Ça veut dire qu'il y a une implication entre renoncer et vouloir. C'est ça que ça veut dire les mathématiques. Oui, c'est très simple. Vous aimez les mathématiques comme ça? C'est facile. Oui, mais vous aimez la parole de Dieu? Vous êtes obligé d'aimer les mathématiques. Ah, la cuisine en calcul. Mais là, on ne fait pas de calcul. Là, ce n'est pas du calcul. C'est pas 1 plus 1. Il n'y a même pas besoin de savoir 1 plus 1. C'est juste à savoir que renoncer et vouloir sont impliqués. Vous ne pouvez pas les séparer. Renoncer implique vouloir. C'est ça que ça veut dire. Alors, passons au verset 25a et 25b à propos de la vie. Ça, c'est à propos de soi. Ce qui nous concerne, c'est que nous devons renoncer. Celui qui ne renonce pas, c'est qu'il ne veut pas. Voilà, c'est clair. Pas qu'il ne peut pas, il ne veut pas. Sans vouloir. C'est normal, puisque Jésus a appris le Notre Père à ses disciples, Notre Père qui est aux cieux, etc. Non pas ma volonté, mais la tienne. Passons aux mathématiques pour le Matthieu 16, 25, à propos de la vie. P implique Q. Q implique P. Ici, alors, vous voyez, verset 25, ah, c'est celui-là, et ça, c'est celui-là. Et ça, ça s'appelle une réciproque en mathématiques. Ça s'appelle une proposition réciproque. La réciproque est vraie. Je veux dire, je prends une réciproque. Sarah est assise à côté de Faline. Et Faline est assise à côté de Sarah. C'est vrai? Ben, c'est la réciproque. Vous voyez, mathématiques, c'est simple, c'est pour les nuls, là. Mais c'est logique, c'est très simple. Vous voyez, c'est de la logique. Florence est assise à côté d'Elsa. Et Elsa est assise à côté de Florence. Voilà, mathématiques, simple. Ça s'appelle une réciproque. Ben voilà, c'est une réciproque. Vous voyez? Donc là, Jésus utilise la réciproque. Mais comme les contreposés sont toujours vrais, vous faites la réciproque, le contreposé de ça et la contreposée de ça, et vous arrivez à une déduction logique qui sont les équivalences parfaites. Ça veut dire que P est une équivalence parfaite de Q. Vous voyez ? C'est peut-être un peu plus difficile là, au niveau mathématique, non ? C'est-à-dire que P totalement équivalent à Q. Alors, je vais vous dire ce que ça veut dire derrière, avec les versets. Ça veut dire que trouver est exactement équivalent à perdre. C'est ça que ça veut dire. Trouver et perdre sont équivalents. C'est-à-dire, si tu dis trouver et si tu dis perdre, c'est la même chose. C'est ça que ça veut dire. Oui ? C'est ça que ça veut dire. Je vous vois réfléchir, c'est très bien. C'est-à-dire que vous suivez. Je ne vous demande pas de comprendre, je vous demande de suivre. L'équivalence parfaite, vous voyez, Jésus utilisait les mathématiques pour le faire, sauf que, voilà, on met des mots dessus, là. Ça veut dire que, à propos de la vie, attention, il faut remettre dans le contexte, à propos de la vie, l'équivalence parfaite entre trouver et perdre, c'est équivalent. Alors, ça veut dire quoi, ça? Comment est-ce qu'on arrive à comprendre? Parce que les gens, ils ne comprennent pas ce verset. Bon, on avait deux étudiants de Vaux-sur-Seine, là, je ne sais plus, une fille qui était de Suisse et puis l'autre qui était du Nord-Pas-de-Calais, là, à Vaux-sur-Seine. Ils ont fait une thèse de maîtrise et j'y étais allé pour l'encourager. Et elle a développé ce verset sur toute sa thèse. Et elle a eu très bien sa maîtrise. Il a développé ce verset, Matthieu 16, 24. Et il a travaillé pendant 6 mois pour développer sa thèse. Mais là, la thèse est très simple. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de faire vos sur scène. Pour avoir la vie, eh bien, il faut comprendre qu'il y a une équivalence entre trouver et perdre. Et ça veut dire quoi, l'équivalence? Ça veut dire que c'est une balance. Waouh! C'est une balance. Ça veut dire qu'il faut toujours être en balance entre trouver et perdre. C'est ça que ça veut dire. Vous voyez? On y reviendra un peu tout à l'heure. Mais je termine par un autre verset. Alors, je reviens en arrière, parce que là, je ne les ai pas tout à fait dans l'ordre, mes trucs. Voilà. On va prendre Jean 14, verset 15. On a de nouveau une équivalence parfaite, mais sur Jésus-Christ. Une équivalence parfaite sur Jésus-Christ. Alors, Jean 14, 15. On le lit tous ensemble. Si vous m'aimez, alors vous obéirez à mes commandements. Waouh ! Obéissance, on n'aime pas trop, hein. Donc français, obéissance, waouh ! Le monsieur là avec le képi me demande de m'arrêter, faut obéir, non, ça va pas ça. Hein. Français, il n'aime pas obéir. Hein. Mais Jésus a dit, si vous m'aimez, alors vous obéirez à mes commandements. On va la contreposer pour bien la comprendre. Hein. Okay. Si vous n'obéissez pas à mes commandements, alors lisez-le. Si vous n'obéissez pas à mes commandements, vous ne m'aimez pas. Ok, c'est clair ? On peut pas être plus clair. Donc l'obéissance implique l'amour et l'amour implique l'obéissance. Un peu plus loin, c'est dommage, là j'ai pas le temps de vous lire l'ensemble du chapitre 14, mais lisez-le, il est formidable. Hein. De toute façon, Jean, c'est extraordinaire. Hein. Mais lisez Jean 14, hein. tout le chapitre. Hein. Vous comprendrez mieux le contexte de ce que Jésus a dit. Je prends juste ces versets-là. 21. Si vous obéissez, parce que ça c'est à la fin de quelques versets, puisqu'il y a, 16, 17, 18, 19 jusqu'à 21 versets. Et là, il reprend pour terminer son discours, son raisonnement, et il dit, si vous obéissez à mes commandements, alors vous m'aimez. Alors, contreposé, si vous ne m'aimez pas, alors, vous n'osez pas le lire, alors lisez-le. Si vous ne m'aimez pas, alors, ok, Jésus a dit ça à ses disciples. Alors, il y a une équivalence entre aimer et obéir. On dit tous ensemble ? Une équivalence entre aimer et obéir. Et c'est là que apparaît ce qui était difficile à comprendre. L'amour inconditionnel, c'est l'amour aimé, et l'amour conditionnel, c'est obéir. Alors, je vais vous lire un petit truc quand même pour bien que ça rentre dans votre petite tête. Quelque chose de très intéressant qui n'est pas écrit par moi, mais que j'ai bien aimé. Voilà. La différence entre le légalisme, c'est quoi le légalisme, hein, Rémi ? Bien. Voilà. C'est aimer, voilà, à fond, la loi, le droit, etc. Et le respect. Donc, je vais vous lire une petite explication sur la différence entre le légalisme. Qu'est-ce qui était légalisme ? Les pharisiens, sadducéens, avec Jésus. Est-ce que Jésus en est venu à bout ? Non. Okay. Voilà. Et c'était les chefs, hein, ceux qui dirigeaient, ils étaient légalistes. Alors que là, Jésus demande d'obéir aux commandements. Okay. Or, la loi, c'est les commandements. Les pharisiens voulaient obéir aux commandements. Okay. Ils parlaient tout le temps des commandements, de la loi, les 10 commandements, etc. etc. Okay. D'accord. Donc, c'est pas mauvais, sauf qu'il ne faut pas l'idolâtrer. Voilà. Il ne faut pas aller trop loin. On croit souvent de nos jours que l'hérésie des Galates, hein, alors l'épître par excellence de l'égalisme, c'est les Galates. Sachant que les Galates, c'est des Gaulois. Hein. Les Gaulois sont allés en Galatie. D'ailleurs, bon, Galatie vient de Gaule, des Gaulois, ils étaient là-bas. Donc on s'y retrouve un petit peu chez les Galates. Mais bon, il n'y a pas que nous, hein, tout le monde, l'être humain, est tendance au légalisme. On croit de nos jours que l'hérésie des Galates était que Dieu exigeait de son Église qu'elle observe la loi. On ne comprend pas la différence entre légalisme et respect de la loi. On va illustrer ce point. La manière dont les parents exigent de leurs enfants qu'ils se plient à certaines règles dans leur foyer illustre la différence entre le légalisme et le respect de la loi. Prenons le cas d'un foyer où les parents n'aimeraient leurs enfants qu'à condition qu'ils se conforment strictement à leurs directives, adhérant strictement à tout ordre donné, pour tout, couvrant le moindre aspect de leur vie, du lever au coucher du soleil. Ça vous dit quelque chose, ça ? Comment vous appelleriez un foyer comme ça ? Hein ? Vous aimeriez vivre dans un foyer comme ça ? Ok. Dans un tel foyer, une punition s'abattrait à la moindre écartade. Et pour mériter l'amour de ses parents, il faudrait se plier entièrement au règlement. Et ça, c'est du légalisme. Vous voyez ? C'est la même chose que ce qu'a dit Rémi, sauf voilà, c'est illustré par un exemple. C'est du légalisme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les parents ont dit « Tu te couches tous les soirs à 9h. » À 9h01, tu as la raclée. Pourquoi ? Ouais, parce que tu n'as pas oublié. Hein ? Vous voyez la différence entre la règle et l'amour de la règle ? C'est-à-dire je ne peux pas supporter un instant que tu te couches à 9h, une minute, alors que je t'ai dit de coucher à 9h. Vous voyez la différence entre un respect de la loi et l'égalisme. C'est parce que j'aime qu'on m'obéisse. J'ai dit 9h, c'est 9h. C'est pas 9h01. Et là, qui dit ça en plus. C'est pas 9h01, c'est 9h. Ce que j'ai dit, ça s'applique. Vous voyez ? Ça, c'est du légalisme. Ok, allons plus loin. Ce que je trouve, c'est bien écrit. Et dans un foyer aussi dysfonctionnel, l'amour ne serait pas vraiment de l'amour. En revanche, il y a un équilibre à trouver. En revanche, le respect de la loi peut être illustré par un foyer dans lequel les parents aiment leurs enfants inconditionnellement, mais leur enseignent à se conformer à certaines règles familiales, des conditions, vous voyez, l'amour conditionnel. Quand les enfants ne s'acquittent pas de leurs devoirs ou de leurs responsabilités, les parents les corrigent avec amour. Dis à ton voisin, les corrige avec amour. Hein ? C'est un petit détail, mais qui a son importance. Les corrige avec amour. Père, n'héritez pas. C'est écrit. Hein ? Pourquoi les pères, je ne sais pas. C'est... Non, mais bon, ça c'est une réflexion, excusez-moi. Voilà. Donc, quand les enfants, je reprends ma phrase, ne s'acquittent pas de leurs devoirs, de leurs responsabilités, les parents les corrigent avec amour et les incitent à quoi ? À changer de comportement. Il faut quand même changer. Attention. Bon, d'accord, t'es couché à 9h01 minute. Bon, allez. Mais la prochaine fois, je voudrais que tu te couches à 9h. Voilà. Mais c'est dit avec amour. Ok ? Et puis c'est tellement amour que l'enfant comprend que bon, les parents ne veulent pas dire une minute, ils veulent dire que c'est pas 10 heures, quoi. Ouais. Vous voyez, et qu'est-ce qu'il a fait Jésus avec les légalistes ? Ben, c'est ce qu'il a fait. Les légalistes venaient le trouver en disant Jésus, la loi dit ça, qu'est-ce que toi tu dis ? Et ils voulaient le coincer. Et Jésus, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait. Il est écrit, mais moi je vous dis. Waouh, Jésus est au-dessus de la loi. Jésus n'a pas dit, il n'est pas écrit. Comprenez bien, entre légalisme et respect de la loi. Jésus respecte la loi. Il dit, oui, il est écrit, c'est vrai, c'est juste. Mais, moi je vous dis. Qu'est-ce qu'il faisait un jour ? Un jour il disait, Jésus, qu'est-ce que tu as fait là ? Tu as guéri un malade. Le sabbat, le jour du sabbat. C'est interdit d'après la loi. C'est interdit. Tu n'es pas de Dieu. Tu es un hérétique. On te met à la croix. C'est ça qu'ils ont dit. Et qu'est-ce que Jésus a dit ? Il est écrit, mais moi je vous dis. D'ailleurs, je vais vous coincer les petits gars. Quand votre âne tombe dans le puits, vous le tirez de là ? Ça vous le dites pas. Hein ? Donc le légaliste est toujours hypocrite. Toujours. Toujours parce qu'il ne peut pas. Il ne peut pas appliquer la loi, puisque la loi, c'est quelque chose qui est demandé, qui est parfait, qui est dans le royaume de Dieu. Okay ? Donc il y a une tolérance. Et Jésus, il nous donne la tolérance. Donc nous donnons la tolérance aux autres. C'est comme celui qui étouffe celui qui lui doit 10 euros, alors que lui, il doit 10 000 euros. Okay ? Et il étouffe celui qui lui donne 10 euros parce que lui, il a été libéré. Voyez ? C'est comme ça l'être humain. Il est méchant par-dessus tout. Ok ? Je termine. Dieu a une famille. Dieu a une famille. Ses lois sont les règles que ses enfants doivent respecter. Dis à ton voisin, tu dois respecter les lois de Dieu. Ouais. Dieu aime ses enfants inconditionnellement, mais, il y a un mais, Il les guide et leur apprend à vivre. Comme vous, vous apprenez à vivre à vos enfants. Quand ils ne respectent pas ces lois, il n'est aucun être humain qui soit sans péché. Il les corrige. Donc la correction est là pour changer les comportements. Et Satan à ce qu'ils modifient leur comportement. C'est pour ça que Joyce Meyer dit, mais si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Simplement, vous allez tourner en rond pendant 40 ans. Jusqu'à ce que vous compreniez que Dieu veut ça. Voyez, c'est dommage. C'est pas un problème. Dieu vous aime inconditionnellement. Il continue à vous aimer. Mais c'est vous qui traverserez un désert jusqu'à ce que vous compreniez qu'il faut sortir du désert et qu'il faut obéir et qu'il faut se soumettre. Alors, respecter ces lois ne fait pas des êtres humains des enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu quand on se donne à sa vie, quand on donne sa vie une certaine orientation, quand on accepte Jésus dans sa vie. Dieu crée ses enfants par amour, mais il les guide dans la voie de l'amour par ses règles familiales, ses lois. Respecter la loi est normal et sain dans une famille humaine comme dans la famille divine. Toute société, d'ailleurs, est basée là-dessus. La société paisible s'attend à ce que les citoyens respectent la... Allons ? La loi. Le problème en France, c'est quoi ? C'est que la loi tue la loi. Il y a tellement de lois qu'on ne sait plus où elles sont. C'est ça le problème. Et De Gaulle s'était fâché avec Chirac, qui était premier. Il en a marre. Alors des lois, des lois. Mais il faut des lois justes, pour les respecter. Le criminel rejette la loi et refuse de s'y soumettre. Parallèlement, il est raisonnable et avant tout biblique de croire que les citoyens du royaume de Dieu, les membres de sa famille, aiment à respecter sa loi. C'est pour ça que notre vision du royaume de Dieu, c'est connaître les lois et de les suivre. Amen. Donc on revient à notre équivalence aimer et obéir, vous voyez, c'est pas antinomique. Aimer et obéir sont équivalents. On ne peut pas dire j'aime si j'obéis pas. Et on ne dit pas j'obéis si j'aime pas. Vous voyez ? C'est ça l'équivalence. Dynamique, parce qu'il y a une dynamique. Et je vais vous démontrer la dynamique, c'est d'ailleurs pas de moi, c'est Christian Schwartz, hein. C'est tout le thème de son livre. Hein. C'est l'équivalence dynamique, ça s'appelle la théonomie, la loi de Dieu. La théonomie, si vous voulez aller loin, vous utilisez la théonomie. Alors la théonomie, c'est quoi ? Ben, c'est ça. Il faut devenir, c'est quoi ça, hein, un équilibriste. Bon, je préfère équilibriste que funambule, mais bon, c'est vrai aussi. Équilibriste. Oui. Oui, je termine. Un équilibriste. Pôle de droite, pôle de gauche. C'est Christian Schwartz, hein, vous le lisez. Je termine juste mes planches. Loi du royaume par le Saint-Esprit. Et la théonomie bipolaire, et je reviendrai là-dessus, il y a deux pôles. Il y a le pôle de gauche et le pôle de droite. Dieu nous a créé un cerveau avec deux pôles. Tout dans la nature, ce que écrit Christian Schwartz, est bipolaire. Il y a deux pôles. Il y a pôle de gauche, pôle de droite, et ils doivent être équilibrés. Okay ? L'un, c'est trouver. L'autre, c'est perdre. Mais il y en a qui pensent qu'à perdre, l'autre qui pense qu'à trouver. Les hyper-charismatiques et les hyper-légalistes. Voyez, c'est comme ça que les chrétiens n'arrivent pas à s'entendre au niveau des églises. C'est comme ça qu'il explique d'ailleurs. Et l'homme charnel ne peut pas vivre cet équilibre. Il ne peut pas. C'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Parce que c'est la chair. Et donc lui, il va aller à l'extrême gauche, au spiritualisme, spiritualise, au mysticisme, à la licence. Hein, tout est permis, etc. Et vous avez les Corinthiens, les gnostiques, les Médicis qui ont introduit ça en Europe. Et le pôle de droite, c'est l'extrême droite. Donc la chair pousse à l'extrême gauche, l'extrême droite. C'est l'institutionnalisme. On aime l'institution, on aime le légalisme, on aime l'ascétisme. Et c'est les Galates, c'est Pélage, Pélagien, les traditionalistes, etc. Amen. Voilà, j'ai terminé. Je reste là-dessus, qui va donner lieu à un autre développement, pour que nous puissions comprendre que nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne sur nos forces. Parce que l'équilibre... Il y en a qui ont déjà voulu traverser les chutes du Niagara sur un fil, sans tomber, sans préparation, sans rien. Non, il y a juste une personne qui l'a fait. Voilà. Donc ne cherchons pas à vivre cet équilibre par nos propres forces, mais demandons à Dieu la force et la grâce. Mais si nous vivons par la chair, nous sommes poussés aux extrêmes. C'est tout. Okay ? C'est ça l'enseignement de Jésus. Seigneur, nous te remercions. Parce que toi, tu nous as donné des lois pour que tout ce monde existe. Loi physique, loi spirituelle, loi de l'âme psychique. Et Seigneur, nous te remercions pour ces lois qui sont bonnes, agréables et parfaites, mais nous ne savons pas les utiliser comme il faut. Alors merci Seigneur pour ta parole et pour cet enseignement que tu nous donnes dans ta parole, que nous devons aimer et obéir, que nous devons trouver et perdre en même temps. Et pour cela, nous avons besoin de toi. Parce que sans toi, nous ne pouvons pas y arriver. Parce que nous voulons tous entrer dans une foi mature, une foi adulte, une foi qui est capable de résister aux pressions de l'ennemi, aux pressions de la chair, aux pressions du monde. Et pour cela, Seigneur, nous avons besoin de toi. Alors merci de nous accorder ta grâce, dans le nom de Jésus. Amen.